hors d'eux comme un extraterrestre. Extra comme un supplément, je vais faire un extra comme une chanson, c'est extra, merci Léo Ferré, comme un spasme, une extase, mais aussi extra comme un festival, c'est super. Extra est le nom du festival de littérature vivante organisé pour la troisième année au Centre Pompidou à Paris. Une initiative que l'on doit à Jean-Max Collard, le chef du service de la parole. Voilà qui appelle au récit. Bonjour Jean-Max Collard.
Bonjour Pascal.
Le service de la parole, je trouve ça magnifique, ça fait un peu griot en chef.
Alors oui, j'aimerais bien. En tout cas, ce n'est pas un service de l'écoute, c'est bien. En même temps, il faut savoir écouter hein, quand on donne la parole aux autres. Mais effectivement, c'est un service qui existe depuis longtemps au Centre, qu'on appelait avant les revues parlées, et qui s'est rebaptisé La Parole pour montrer justement tout l'éventail des conférences, des colloques, des débats, des paroles qui peuvent se tenir dans le Centre Pompidou.
Vous voulez dire que les mots ont autant d'importance ou de valeur que les tableaux de Picasso, Miro, Bacon ou Modigliani que l'on peut voir à Beaubourg, qui est l'autre nom du Centre Pompidou, hein.
Oui, parce que le Centre Pompidou, faut bien le dire, n'est pas qu'un musée. C'est d'abord un très important musée, le Musée National d'Art Moderne, qui est un des musées les plus importants du monde. Mais en même temps, c'est une bibliothèque, la bibliothèque publique, la BPI. Et puis c'est aussi du cinéma, c'est aussi des spectacles, et puis ce sont aussi effectivement des paroles de conférences, des paroles de colloques, des paroles d'écrivains. Voilà, c'est un programme très varié qui fait justement la diversité du centre.
Et c'est donc dans ce cadre-là que vous organisez, Jean-Max Collard, ce festival extra. Le titre fait référence à quoi ?
Ben, vous l'avez dit, l'idée c'est d'abord de fêter la littérature dans son état actuel, voilà, de pas se déplorer qu'on serait sur la fin de la littérature ou que voilà, au contraire, de marquer l'extraordinaire vitalité aujourd'hui et dans toutes ses formes de la création littéraire qui peut être sonore, qui peut être visuelle, qui peut être textuelle, qui peut être livresque, qui peut être exposée, enfin voilà,
c'est tout ça à la fois.
C'est tout ça qu'on essaie de couvrir à la fois, qui peut être la littérature numérique aussi, qui peut être la création radiophonique, enfin voilà, on essaie nous de fêter toutes ces formes. Mais vous l'avez dit aussi, il y a la référence à la chanson de Léo Ferré, cet extra, qui manifeste comme ça. Et puis c'est l'idée extra, au fond, d'un mouvement de sortie. C'est vrai que c'est l'idée d'un mouvement de sortie, peut-être d'une littérature qui n'hésite pas, et de plus en plus aujourd'hui, à sortir du livre, en quelque sorte, à ne pas rester confiné, en tout cas, dans le seul espace du livre, et puis qui va aller investir quantité d'autres moyens d'expression.
Vous dites « festival de la littérature vivante ». Ça, c'est quand même un point central, vivant. Mais est-ce que ça s'oppose à une littérature morte qui serait celle qui est dans les pages des livres ?
Non, pas du tout.
Vous allez vous faire des ennemis chez tous les libraires et éditeurs.
Non, c'est pas du tout un... L'idée de la littérature vivante, c'est pas du tout un label. C'est pas l'idée qu'il y aurait des littératures plus vivantes et que d'autres seraient mortes. C'est plutôt l'idée que, si vous voulez, pour le dire autrement, la vie littéraire a changé. Voilà, pendant deux siècles, elle a été effectivement entièrement dominée par le livre, qui était à lui seul une sorte d'espace public un peu abstrait. On jetait le livre dans l'espace et puis voilà, il faisait son chemin. Tandis qu'aujourd'hui, l'auteur accompagne son livre. Il vient dans les médias, il vient sur scène, il va dans des librairies pour signer le livre, il va dans des médiathèques et puis il monte aussi sur scène. Par exemple, il y a quantité de lieux aujourd'hui en France où les auteurs se produisent sur scène, font des lectures même parfois très fortes, très performantes. Donc, nous, c'est toute cette situation. Puis, évidemment, toutes les nouvelles technologies sont des lieux aussi où la littérature se propage vraiment selon d'autres manières. Par exemple, quand on prend YouTube, YouTube, c'est à la fois un lieu où des écrivains archivent des œuvres ou des performances même qu'ils peuvent faire. Et puis, c'est le lieu aussi où plein de lecteurs conseillent des livres à d'autres. Donc, c'est toute cette nouvelle vie littéraire que veut être le festival. Au fond, c'est un festival de la vie littéraire telle qu'aujourd'hui, elle se donne à nous.
Donc, c'est un salon littéraire 2.0.
Voilà,
pour faire
pas
brancher.
Un salon du livre. Mais c'est un salon littéraire tel qu'aujourd'hui on le voit, avec de la chanson, parce que historiquement la chanson ça a été aussi un lieu de la poésie, avec du slam, avec des écrans, avec des scènes, avec évidemment, puisqu'on est au Centre Pompidou, avec aussi des expositions, parce qu'il y a une très forte dimension littéraire dans l'art contemporain. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui écrivent ou qui retraitent la littérature sous d'autres formes.
Alors il faut dire que ce festival accompagne la rentrée littéraire française, qui est toujours un grand moment dans la vie culturelle de ce pays. Donc ça veut dire que vous détestez pas tout à fait les livres.
Mais pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'en ai plein avec moi et on fait tous les jours, on reçoit des auteurs de la rentrée littéraire. Hier soir, on avait Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, on aura Emmanuel Pirère. On reçoit aussi des auteurs de premiers romans. Donc pas du tout. C'est même important de s'inscrire dans la rentrée littéraire et de dire en même temps à cette rentrée littéraire que justement, eh bien, ces auteurs, ils ont aujourd'hui quantité d'autres manières d'être écrivains.
Et pour évoquer quelques éléments de langage, comme on dit dans la communication, vous dites souvent que c'est de la littérature debout.
Alors ça, c'est le terme qu'utilisaient vraiment les poètes sonores des années 60-70, c'est-à-dire qu'ils voulaient justement être les poètes debout contre la littérature couchée, couchée évidemment dans les livres.
Et je pense que couché dans son lit, parce que c'est vachement agréable de lire un livre au lit.
Bien sûr, c'est évidemment très agréable. Mais disons qu'eux, ils voulaient effectivement être debout comme une sorte de front de résistance à l'académie. Mais ce qui est intéressant, c'est que au fond, dans les années 60-70, c'était une position très marginale au sein du monde littéraire. Mais aujourd'hui, justement, cette position, elle s'est complètement, elle est devenue massive, parce qu'en réalité, tous les écrivains aujourd'hui sont invités, même par leurs éditeurs, à se produire autrement que par le texte. On recevait hier soir Jean-Philippe Toussaint, et Jean-Philippe Toussaint à la fois a montré des vidéos, il a fait aussi des films de cinéma, et puis en même temps là il sort en pleine rentrée littéraire un des très beaux livres qui est La Clé USB aux éditions de Minuit.
Dont nous aurons l'occasion de parler dans cette émission. Alors de la littérature debout, eh bien dansons maintenant, c'est l'invitation de Dorian, Philippe Catherine et Mika, danser entre hommes.
Alors, on va y aller.
Je me tiens la main.
Ouais.
Danser entre
Philippe, t'as pas peur?
On éteint la lumière. Et je prends un verre. Danser entre hommes, mais pas sur du passo double. Travailler, c'est travailler. Quoi de mieux pour la santé?
Danser entre hommes, l'humour toujours un peu décalé de Philippe Catherine, Dorian et Mika, c'est sur RFI pour danser en cette fin d'été avant la sortie de l'album de Dorian attendu en janvier. Jean-Max Collard, le directeur artistique du festival Extra est notre invité aujourd'hui dans De Vive Voix et j'aimerais dire un mot sur l'affiche de ce festival qui est une sorte de prouesse physique, une jeune femme avec un stylo bic coincé sur la lèvre supérieure et donc sous le nez. J'ai essayé toute la matinée, je n'ai pas réussi.
Il y a un truc.
Je me fais faire du Botox à la fin de la semaine.
Ah, elle est jeune, elle n'a pas eu besoin de faire du Botox. Mais en tout cas, c'est l'idée effectivement d'avoir ce visage très, très actuel qui est une jeune femme qui s'appelle Alice Moirot et le graphiste qui a fait l'affiche, qui est un artiste qui est Thomas Lélu, a placé évidemment ce stylo bic comme ça, comme une sorte de moustache. Moi, je la vois un peu comme la Joconde revisitée par Duchamp, quand Duchamp a mis une moustache à la Joconde. Et donc, c'était un peu, voilà, notre notre Joconde du Festival littéraire Extra.
Alors pendant 4 jours, il va se passer plein de choses à Beaubourg, avec des rencontres, des projections, des performances, car la littérature est dite sur scène, et c'est d'ailleurs un des grands axes de cette édition d'Extra. Comment dire la littérature sur scène, comment et pourquoi la faire sortir hors du livre, donc selon la formule consacrée. Est-ce qu'il y a pour vous, Jean-Max Collard, des raisons artistiques ou historiques pour que les auteurs aujourd'hui montent sur scène et se prêtent à ce qu'on appelle les performances?
Alors, je crois qu'il y a vraiment une raison. Il y a une raison qui est... D'abord, ça remonte un peu à longtemps. On l'a pu l'évoquer avec la poésie expérimentale des années 60-70. Mais je crois qu'il y a une raison très actuelle et qui est liée quand même, d'un point de vue de société, des points de vue de questions de société, à, je dirais, la perte un peu de force, et notamment de force économique, du livre. Et de ce fait, par exemple, quand vous prenez des gens qui sont des poètes, aujourd'hui, la poésie, ça n'existe pas économiquement, du point de vue des chiffres de l'édition. C'est vraiment très très peu. Et donc on ne vit certainement pas de sa plume quand on est poète. Donc par contre, quand on, du coup, face à ce problème en quelque sorte, les écrivains vont aller trouver d'autres modes d'expression, ils vont investir d'autres lieux, que ce soit les murs des expositions, que ce soit, et d'ailleurs dans le Festival Extra vous avez aussi des écrivains qui exposent, par exemple Tanguy Viel qui montre un diaporama de textes et d'images, et puis en même temps ils vont aller effectivement sur scène. Et moi je connais des poètes qui vivent plus de l'intermittence du spectacle, c'est-à-dire vraiment du monde du spectacle vivant, que du livre. Et par exemple, quand vous prenez la poésie, les poètes sont très peu, je dirais, reconnus par le monde littéraire lui-même, les poètes actuels, alors que dans le champ de l'art, ils sont énormément aimés. Et par exemple, des poètes américains comme le poète George Giorno, quelqu'un qui a eu une exposition entière au Palais de Tokyo. Donc, c'est là où c'est intéressant.
Ce que vous dites est vrai aussi pour la musique. Les concerts payent plus aujourd'hui que les disques dans les trois quarts des cas pour les musiciens.
Et c'est là où on retrouve, voyez, cette idée de littérature vivante, au sens où le vivant, c'est aussi le live. Et le live, c'est aussi la relation directe entre les auteurs et les lecteurs. Et quand on parlait des signatures dans les librairies ou dans les médiathèques, c'est aussi le fait que les lecteurs eux-mêmes veulent aussi avoir une relation directe avec les auteurs. Quand on organise une signature, il y a toujours du quantité de public qui viennent parce qu'ils veulent aussi une relation qui ne soit pas simplement la relation de l'interface avec le livre ou de l'écran par les médias.
Mais il y a quand même deux choses dans ce que vous dites. Il y a la littérature orale, pensée, écrite pour l'oralité, comme c'est le cas de certains poètes sonores, mais il y a aussi ces auteurs, Jean-Philippe Toussaint, qui écrivent des livres et qui en font des lectures dans les médiathèques. C'est pas exactement la même chose. Là, on peut pas parler de littérature orale dans ce cas-là. Ce sont juste des auteurs, je vais être un peu désagréable, qui font du service après-vente aussi.
Oui, alors on pourrait... Vous avez raison. C'est-à-dire que... c'est pour ça que je dis que cette situation, elle s'est élargie à tous les écrivains. Ils ont tous affaire à la nécessité d'accompagner leurs livres et de faire des choses autour de faire, comme vous dites, un peu le service après-vente. Sauf que certains le vivent mal et font péniblement le service après-vente, et puis d'autres en font un lieu de créativité. Et quand quelqu'un comme Olivier Cadiot lit sa poésie, bon ben voilà, c'est un moment absolument magique qui fait entendre le texte de manière très forte. On peut aussi penser à Christine Angot qui fait des lectures absolument remarquables. Et donc là, ça veut dire qu'on réinvestit ce moment de la littérature par une manière soit de faire entendre, puis d'autres créer, par exemple, je pense à Olivia Rosenthal, qui est une des écrivaines de la rentrée aussi, et bien elle crée parfois des pièces pour la scène qui ne sont pas publiées dans des livres. Donc elle a une production littéraire spécifique pour la scène. Donc au fond, je pense qu'aujourd'hui c'est un trait commun, mais certains en font un lieu de créativité.
Mais là, vous parlez de trois auteurs, Rosenthal, Cadiot et Angot, qui ne cherchent pas à bien écrire, comme on pourrait le penser version 19e siècle, mais qui cherche à restituer une parole. Et ça, sans être un spécialiste de la littérature, c'est vrai que c'est un mouvement, me semble-t-il, mais j'attends votre contradiction, un mouvement dans la littérature française aujourd'hui de restituer, que l'écriture donne la parole, enfin, fasse entendre une parole. Non?
Oui, mais je crois que c'est le rapport entre la littérature et le réel. Je pense que la littérature a ces dernières années aussi beaucoup réinvesti les terrains. D'un auteur qui va aller passer 15 jours à la gare du Nord pour aller voir, comme ça avait été le cas de Joyce Ormond, pour voir les systèmes de surveillance, pour voir toute cette logique. Et donc, on a, oui, les auteurs retournent sur des territoires, retournent sur des terrains. Je pense, en passant, ce jeune auteur qui s'appelle Charles Cousty, qui a écrit Parking Peggy. Et en fait, c'est assez amusant puisque il a fait une recherche sur la présence de Peggy en France. Et donc, Charles Peggy donne son nom à des parkings, à des stades, etc. Et donc, il est allé sur dans ces lieux pour voir ce qu'il y avait de Peggy dans ces lieux. Ça s'appelle Peggy Parking et ça sort en ce moment. Et c'est vraiment une enquête territoriale sur la France. Bon, ça, c'est exemplaire.
Et on le retrouve bien évidemment dans votre festival.
Et on le retrouve dans mon festival.
Tiens donc. Alors dans ce festival, vous avez une conception, Jean-Max Collard, très très large de la littérature, à l'image de la proposition faite par la plasticienne Dominique Gonzalez-Forster, qui est une artiste dont la carrière est internationale et qui travaille sur l'espace, la vidéo, le son, la lumière. Pour Extra, elle propose Textodrome. Alors vous êtes dans une salle de cinéma et sur un grand écran, dans des couleurs variées, bleu, rouge, jaune, toujours flashy, sont projetées des phrases, tout type de phrases. Rencontre avec l'artiste au micro de Charlie Dupiau.
Textodrome, c'est pas forcément un endroit où on va tranquille faire des textos, mais c'est un endroit qui expose une série de textes et de rapports aux textes. Donc, ce que j'ai appelé des textofilms, des textoslogans, des textosons, des textodreams, voilà, tout un ensemble de textotextes.
Là, on est dans l'équivalent d'une salle de cinéma qui a l'air très confortable avec un écran. Donc l'écran est tout bleu et on a des lettres blanches en majuscules qui affichent les mots que vous dites. Et voilà, il n'y a que ces lettres-là qui occupent l'espace de l'écran, blanche, très grande.
Alors la radicalité du textodrome, c'est qu'il n'y a pas d'image. Ça, c'est un choix aussi, c'est qu'on est vraiment à fond dans le texte. Donc en fait, le textodrome, c'est aussi plein de rapports au texte. Là, on est devant les textoslogans. Et les textoslogans, c'est des slogans du monde entier qui viennent de Hong Kong, du Brésil, et qui nous disent ce qui se passe dans le monde aussi.
Des slogans de manifestation.
Voilà, des slogans activistes, des slogans liés à des manifestations, des slogans écologistes, des slogans féministes.
Par exemple,
on ne peut pas simuler la liberté, c'est un slogan qui vient de 68. La plupart sont contemporains. Là, on est devant un rêve. Donc, les textos-rêves, c'est des récits de rêves, des transcriptions.
Vous en lisez un, peut-être ?
Alors, il y a un petit chemin qui se transforme en tunnel de pierre. Je marche jusqu'au fond du tunnel. Il y a une grande ouverture vers l'extérieur et j'entends un oiseau, peut-être un corbeau. C'est des rêves que j'ai transcrits. Ce sont des vrais rêves.
Je sens que tout se déplace, mais pas d'une manière régulière et que le sol fonctionne comme un immense récit.
Voilà, les rêves sont un peu flottants.
En fait, qu'est-ce que vous montrez avec cette œuvre-là, avec ces textes, leur présence, dans le cadre de ce festival sur la littérature orale ?
Avec Jean-Max, notre conversation sur la littérature, c'est aussi l'idée de la littérature étendue, expanded literature. Moi, je dis souvent que je suis un peu un écrivain raté, mais la littérature, c'est la base pour moi. Donc, presque toutes les œuvres sont fondées sur des livres, sur du texte. Et là, c'est une manière de montrer un ensemble de textes, d'œuvres, presque en situation d'exposition dans cette salle de cinéma, et que la littérature peut prendre plein de tournures qui sont pas forcément l'impression sur papier. La manière dont on est exposé à toutes les formes de texte, en recevant un texto qu'on mélange avec un slogan qu'on lit dans la rue, avec le texte d'une affiche, avec tout ça construit un texte en fait. Et le textodrome, c'est un peu la tentative de montrer l'hétérogénéité des sources et de les rassembler.
Jean-Max Collard, un artiste à tous les droits, et Dominique Gonzalez-Foster plus encore, mais de là à penser qu'un SMS est de la littérature, il me faut quand même un petit temps de réflexion, non ?
Il y a des romans qui se sont écrits par tweet, mais si vous voulez, il faut savoir que Dominique Gonzalez-Foster, elle écrit depuis le début de son travail d'artiste. C'est vraiment quelqu'un qui a tout le temps une pratique d'écriture, et ce qui est assez passionnant, c'est qu'elle est elle-même devenue un personnage de littérature, puisqu'elle est il y a eu un roman dont a été un des personnages d'Enrique Villamatas, grand écrivain espagnol. Et en ce moment, dans la rentrée littéraire, il y a un jeune auteur qui s'appelle Théo Cassiani qui vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle Rétine. Et un des personnages est à nouveau Dominique Gonzalez-Forster. Et il ne se connaissait pas. Et donc, si vous voulez, ça désigne le fait que, voilà, une artiste qui circule, qui promène avec elle des textes, qui écrit, qui les retraite, c'est vraiment une aventure littéraire dans le monde de l'art contemporain. Et c'est ça qui, évidemment, moi, me passionne. Et quand on parle de littérature étendue, Moi, je crois que la littérature, en fait, est aujourd'hui dans une phase d'extension. Il y a des moments où la littérature a pu vraiment, effectivement, se resserrer dans ses propres définitions, et l'essence absolue, ce serait à ce moment-là le livre. Mais au fond, aujourd'hui, la frontière du livre est en train d'exploser, et voilà ce à quoi on assiste.
Mais vous évoquiez tout à l'heure YouTube. Est-ce que vous pensez vraiment que le numérique et les réseaux sociaux ont modifié à la fois la littérature comme production et notre rapport à nous, lecteurs, à la littérature?
Moi, je crois vraiment. D'abord, ce qui se passe, et les éditeurs le disent beaucoup, ce qui a beaucoup changé, ce qui est en train de muter considérablement, c'est les façons de lire. Parce qu'on lit sans cesse avec des écrans, parce qu'on déplore, certains déplorent que le monde des écrans nuit à la à la lecture, mais en fait on ne cesse de lire et on ne cesse aussi d'écrire. Alors, je dis pas qu'on écrit pour autant de la littérature, qu'on lit que de la littérature, mais voilà, déjà nos modes de lecture ont changé avec les tablettes, avec les liseuses, avec les téléphones, c'est une manière très différente. Par exemple, moi j'écris parfois certains textes pour les journaux, et maintenant de plus en plus je les dicte sur mon téléphone. Et donc il y a aussi, et je sais un écrivain comme Camille de Toledo, par exemple, il dicte énormément. Or, il faut se souvenir que Stendhal avait dicté La Chartreuse de Parme. Montaigne, on sait qu'il a dicté des passages des essais de Montaigne. Donc, du coup, cette question de la relation orale comme création littéraire, c'est aussi quelque chose qui revient. Il n'y a pas que le manuscrit ou l'écriture manuscrite pour faire de la littérature. Il y a aussi l'oralité de la voix. Donc, c'est tout ça qui est en train de se reconfigurer. Et évidemment, le numérique, je ne dis pas que c'est forcément un changement de la littérature, mais comme je dis, c'est un changement de la vie littéraire. Ça change complètement la vie littéraire, parce que voilà, lecteur, auteur, on passe par ces endroits et par tous ces écrans, et ça, on est dans un moment vraiment de reconfiguration.
Et c'est vrai qu'il faut peut-être se rappeler que la littérature existait avant le livre, en tout cas avant le livre papier, et que nombre de romans, de poèmes étaient conçus pour être dits.
Bien sûr, et on recevait
au Moyen-Âge, il faut même pas revenir à l'Antiquité.
Mais revenons à l'Antiquité. On recevait hier soir Florence Dupont, qui est une historienne de l'Antiquité. Elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Homère et Dallas, où elle compare la façon dont on écoutait Homère dans les banquets grecs antiques à la façon dont on dînait en famille en laissant la télé allumée sur la série Dallas. Et donc, en fait, on écoutait des morceaux de poésie et tout en participant au banquet. La littérature était effectivement orale. Et puis, à un moment donné, on a fixé ces versions de Homère et c'est devenu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et ça, c'est là qu'arrive la littérature. Mais au fond, le texte se propageait déjà selon quantité de strophes et d'une manière tout à fait orale.
Donc Ulysse et J.R., même combat.
Pardon ?
Ulysse et J.R., même combat.
Exactement.
Alors, autre exemple de proposition artistique dans votre festival, Jean-Max Collard, c'est MMH, le musée de Michel Houellebecq. Je le prononce mal, mais on aura une leçon tout à l'heure. Alors, tout ça est très ludique. Ce sont deux artistes, Alice Lescane et Sonia Derzipolski, qui ont imaginé un jeu d'anticipation. Alors, vous êtes le 16 mars 2032, le célébrissime Michel Houellebecq vient de mourir et vous êtes conservateur du patrimoine avec pour mission de faire de la maison de l'écrivain un musée. Alors, quel musée? Pour mettre en avant quoi? Son œuvre, sa vie? Est-ce que vous aimez ou détestez d'abord Michel Houellebecq alors qu'on vous confie cette mission? Bref, tout est possible et les artistes proposent 6 versions de ce musée. Ce sont des petites maquettes accrochées au mur. À vous de choisir, avec un casque sur les oreilles et un audio guide. Et là encore, Charlie Dupiot s'est prêté au jeu avec Alice Lescane et Sonia Derzipolski.
Ce qu'on propose en premier lieu au visiteur qui devient conservateur du patrimoine de la maison-musée de Michel Houellebecq, c'est de faire un choix qui est lié à son sentiment par rapport à Houellebecq et son œuvre. À savoir, est-ce qu'il va être très content parce qu'il admire donc Michel Houellebecq, ou alors est-ce qu'au contraire, ça va lui déplaire cette idée de devenir conservateur de sa maison?
Et l'idée de cette exposition, c'est de travailler comme si c'était un livre dont vous êtes le héros. Alors, vous nous expliquez peut-être un peu le concept?
Oui, je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec les livres dont vous êtes le héros. C'est une collection qui était très à la mode dans les années 80. Donc, par exemple, Alice et moi, on est typiquement la génération de lectrices des livres dont vous êtes le héros, où le livre, en fait, propose au lecteur plusieurs choix possibles. Il y a plusieurs chemins, en fait, de lecture dans le livre dont vous êtes le héros. Et c'est l'expérience aussi qu'on propose aux visiteurs de l'exposition qui est de, à travers l'audioguide, leur proposer de faire des choix. Donc la voix de l'audioguide, à la fin d'une piste de lecture par exemple, leur propose 2 ou 3 choix possibles
vers des versions différentes de la maison-musée de Michel Houellebecq.
D'accord. Je vais donc vous inviter à regarder autour de vous et à vous diriger vers la maison D. Allez-y.
Par exemple, cette maison-là, on l'a imaginée comme une maison d'écrivain qui va s'appuyer non pas sur le personnage de l'écrivain, la personne qu'il est, et donc vouer un culte à tous les objets, mais davantage, beaucoup plus mettre en valeur l'œuvre littéraire. Et donc, cette maison qui prend la forme d'un escape game, donc c'est un concept de jeu qui est assez à la mode en ce moment, où une équipe de participants sont enfermés dans une pièce et il y a un scénario, il y a un décor, et ils doivent réussir à sortir de cette pièce dans un temps imparti. Et en fait, on a imaginé que peut-être la maison d'écrivain de Michel Houellebecq pourrait devenir un escape game dans le futur, et que l'un des scénarios possibles pour cet escape game s'appuierait sur son livre « La possibilité d'une île », où une secte organise le clonage de ses membres pour les amener à la vie éternelle. À partir de ça, on a imaginé ce que pourrait être le décor d'un escape game. Donc c'est aussi un peu carton-pâte, il y a un palmier 3D, un kit en carton à monter, il y a le costume du gourou, il y a plein d'éléments qui vont être proposés aux visiteurs de cette fiction, évidemment.
Parmi les trois planches colorées devant vous, choisissez-en une et appuyez sur la touche correspondante au bas de l'audioguide. La rouge, la jaune ou la verte.
Alors un autre scénario, c'est « Qui a tué Michel Houellebecq ?»
Pour le coup, qui est inspiré directement de son roman « La carte et le territoire », dans lequel Michel Houellebecq met en scène sa propre mort, et où en fait on découvre son cadavre, enfin en tout cas ce qu'il en reste, avec celui de son chien. Donc on retrouve la tête de Michel Houellebecq, ainsi que celle de son chien, et plein de restes de peau et de chair éparpillés partout dans la pièce.
Et donc on a aussi imaginé que la maison d'écrivain de Michel Houellebecq dans le futur pourrait être transformée en un musée dédié à perpétuer une mémoire tout autre que la sienne. Parmi les mémoires qui peuvent être tout autre que la sienne, il y a une muséographie en option qui est de faire de ce musée un musée de l'histoire des luttes LGBT. Parce que les personnages des romans de Houellebecq sont le plus souvent des hommes de classe moyenne, plutôt hétérosexuelle, plutôt voilà, et c'est un peu l'inverse évidemment des personnes LGBT et de leur combat. Le combat LGBT est très peu présent dans les romans de Houellebecq.
C'est le titre de la maison.
Alors il y a quelque chose de très important, c'est que ça veut dire maison musée Michel Houellebecq, mais donc c'est aussi une onomatopée. Et cette onomatopée, on peut la prononcer de plein de manières différentes. On peut la prononcer ou on peut aussi dire ou alors on peut aussi dire
Vous dites quoi, Jean-Max Collard?
Moi, je dis que voilà encore une autre manière pour des artistes de revisiter la littérature. Et moi, j'étais très heureux, très curieux de voir des artistes investir ce genre de musée qu'est la maison d'écrivain.
Mais c'est une fiction.
C'est complètement une fiction sonore, une fiction qu'on suit à l'audioguide. Mais c'est très amusant. Alors, il faut dire aussi qu'elles ont eu l'autorisation de Michel Houellebecq pour faire cette fiction, et elles sont allées lui rendre visite. Il les a très bien reçus, il lui a montré l'intégralité de son propre intérieur. Donc elles ont aussi des éléments pour faire la vraie maison-musée de Michel Houellebecq.
Alors d'autres écrivains sont à l'honneur dans ce festival extra, et notamment des poètes sonneurs. Chaque année, l'un d'eux reçoit le prix Bernard Heitzig. Et cette année, c'est une jeune femme suédoise, mais vivant en Allemagne, Sia Rinne, qui a reçu ce prix, et qui a la particularité d'écrire dans toutes les langues. Et c'est vraiment... Est-ce que vous nous recommandez de découvrir cette poétesse?
Oui, je crois que Sia Rinne, c'est une figure vraiment très emblématique d'une femme qui circule entre poésie sonore, poésie visuelle aussi par moments. Dans les livres, sont très étonnants, il y a des dessins et des textes. Et puis en effet, elle écrit entre les langues, elle écrit dans plusieurs langues. Et de ce point de vue, c'est aussi d'une grande lisibilité. Et ça, c'est très frappant aussi. Sia Rinne.
Et on va l'inviter. Merci Jean-Max Collard. Le Festival Extra se déroule jusqu'à dimanche au Centre Pompidou et c'est gratuit. C'est un festival de découverte ou d'aventure, comme le disait René Char. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin. À la semaine prochaine.